8h30 temps universel, 9h30 ici à Paris. C'est la dernière édition d'Afrique Matin avec vous, Arthur Ponchelet. Bonjour.
Bonjour Charlotte et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, le Tchad à l'heure du choix. On votait hier pour les élections législatives, provinciales et communales. Un triple scrutin pour mettre fin à 3 ans de transition. Un vote boycotté par une partie de l'opposition. Le taux de participation n'a pas encore été dévoilé par l'Agence nationale de gestion des élections. Au Bénin, le chef d'état-major de l'armée vient d'achever une visite dans le nord du pays. 4 jours pour faire le point sur la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui a été annoncé? On fait le point dans un instant. Au sommaire également, alerte à la pollution aux particules fines à Abidjan, la capitale économique ivoirienne où ceux qui travaillent en extérieur sont en première ligne. Et puis on évoquera la mort de Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, artisan des accords de Camp David, avait été le premier chef d'État américain à se rendre en Afrique subsaharienne. C'était en 1978. Jour de vote, hier au Tchad, plus de 8 millions de personnes étaient appelées aux urnes pour élire les députés, les maires et les représentants locaux. 3 élections simultanées pour clore 3 ans de transition, entamées après la mort de l'ancien président Déby. Un scrutin boycotté par une large partie de l'opposition qui estime que les jeux sont déjà faits. L'un des enjeux de ce vote, c'est donc le taux de participation. Pas de chiffre officiel donné à ce stade par l'ANJE, l'Agence nationale de gestion des élections. N'Djamena, en tout cas, les observateurs s'accorde pour dire que l'engouement a été faible. Reportage de Nadia Benmafoud.
Dans les 5 bureaux de vote de l'école Bololo du 2e arrondissement de N'Djamena, peu d'électeurs se sont déplacés ce dimanche. Mais cet enseignant-chercheur de 42 ans fait partie des rares à être présent. Youssouf Aboubakar.
C'est très important, c'est déjà un devoir. Et donc on fait avec ce qu'il y a et on ne boycotte pas, on vote.
Un peu plus loin, Douxambé Ali Chama est sur sa moto. Ce taxi n'a pas souhaité se rendre aux urnes.
Ça change rien. Voter ou pas, nous on sait que c'est toujours un PS qui doit gagner. Donc on ne peut pas aller voter.
Le rapporteur général de l'Observatoire des associations sur les processus électoraux au Tchad constate moins d'engouement que pour les précédentes élections. Brégombo Ouzibé.
Ce taux est l'un des plus médiocres de l'histoire électorale du Tchad. Parce que si on compare à 2011, où il y a eu les dernières élections législatives au pays, celui-ci s'avère être complètement déplorable.
Est-ce en raison d'une certaine fatigue des Tchadiens vis-à-vis de la politique, une réaction face aux maigres enjeux de ce scrutin ou une réponse des électeurs à l'appel au boycott de nombreux partis d'opposition? Des questions qui se posent au lendemain du scrutin. Nadia Benmafoud, N'Djamena, RFI.
Cette journée électorale au Tchad, marquée aussi par un appel à la grève de plusieurs médias privés, mouvement finalement assez peu suivi si on le compare à ceux du 23 et 24 décembre. Décembre dernier, les médias privés demandent à la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, l'AMA, de leur verser leurs subventions annuelles. Le Gabon, lui, va entamer un processus de révision du fichier électoral à partir du 2 janvier et jusqu'à la fin du mois, annonce ce week-end du ministre de l'Intérieur, une rectification des listes qui concerne en priorité les jeunes et ceux qui souhaitent changer de centre de vote. Les prisonniers en détention provisoire seront aussi recensés pour leur permettre de voter. À l'écoute de RFI, il est 9h33 à Cotonou, au Bénin. Le chef d'état-major de l'armée, de retour du nord du pays, le général de division Fructueux Baguidi, a passé 4 jours dans l'Alibori et le Borgou, département dont certaines zones ont subi des attaques terroristes. Une visite durant laquelle il a donc été beaucoup question de lutte contre le terrorisme. À Cotonou, le récit de Jean-Luc Aplogan.
La tournée commence à Parakou, 3 heures de rencontre avec la communauté Peul, la parole est libre. Ses représentants se sont plaints de stigmatisation régulière dont ils sont l'objet. Les propositions de solutions plaident pour une implication de chacun et de tous dans la lutte contre l'extrémisme violent et pour une coproduction de la sécurité entre l'armée et la communauté Peul. La suite se déroule sur le terrain, visite du théâtre de l'opération Mirador, le dispositif de riposte et surtout 2 sites objets d'attaque récemment. En juillet, une antenne de African Park a été la cible d'une attaque meurtrière, 12 morts, dont 7 militaires. Puis l'étape de Malanville, là où l'oléoduc nigérien a été attaqué le 2 décembre dernier. On apprend que l'ambassadeur de Chine était dans la zone récemment. WAPCO, l'opérateur chinois du pipeline nigérien, y a construit une station de pompage. Selon nos informations, à la fin de la tournée, le dispositif autour du pipeline et de certaines positions a été renforcé. Patrice Talon avait annoncé des investissements en cours. Des livraisons de matériel sont planifiées pour le premier trimestre 2025. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
L'UNICEF alerte sur le nombre d'enfants exposés aux conflits dans le monde. 2024 fut l'une des années les plus tragiques pour eux, alerte le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Plusieurs pays sont pointés du doigt, au premier rang desquels le Soudan. Le pays est toujours miné par la guerre qui fait rage entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière. Écoles bombardées, famine, maladie, la situation est de plus en plus préoccupante sur place. C'est un fléau qui touche de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier en pleine saison sèche. Plusieurs villes sont victimes de pollution aux microparticules. La qualité de l'air se dégrade et le ciel se voile. Conséquence, des poussières du désert ramenées du Tchad par l'Harmattan. Exemple à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où la concentration de particules fines est en ce moment jusqu'à 12 fois supérieure aux normes de l'OMS. Une pollution qui représente un risque pour la santé, notamment pour ceux qui travaillent en extérieur. Reportage de Benoît Almeras.
Ils sont des dizaines autour de ce carrefour de Cocody, petits commerçants, chauffeurs, policiers. Annette, tous, cette quinquagénaire balaie la chaussée.
Il y a soleil, il y a poussière, ça nous fatigue même.
Là, en ce moment, avec l'Harmattan, c'est plus dur.
C'est trop dur même.
Annette porte un masque en tissu. L'indice de qualité de l'air est en ce moment deux fois pire qu'en temps normal. Le docteur Sylvain Niamien surveille les particules fines en temps réel.
Depuis deux semaines, on observe une très forte concentration qui part de 8 heures jusqu'à descendre vers 22 heures, 23 heures. Un maintien permanent de ce niveau de concentration-là.
Le risque, c'est de contracter ou d'aggraver des maladies respiratoires. Alors ce spécialiste des sciences atmosphériques conseille d'éviter les zones de fort trafic.
Cela permet dans un premier temps de diminuer sa surexposition. À défaut de pouvoir le faire, portons juste un masque communément appelé en Côte d'Ivoire cache-nez. Ça nous permettra de pouvoir filtrer une bonne partie des particules.
Mais pour Jenaba, une autre balayeuse, il est impossible d'arrêter le travail.
On ne peut pas arrêter, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas arrêter. On s'est débrouillé pour nourrir la famille, les enfants. Si j'arrête là, il va faire comment?
Selon les estimations, près de 400 000 Africains meurent chaque année en lien avec la pollution de l'air extérieur. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Au Nigeria, le prix du riz atteint un nouveau record, 75 000 naira, le sac de 50 kilos, soit environ 48,50 $. L'inflation alimentaire est au plus haut dans le pays depuis près de 30 ans. Résultat, selon l'Agence statistique nationale, les deux tiers des foyers nigérians souffrent de la faim. Nouvelle illustration de l'échec du gouvernement de Bola Tinubu à endiguer la hausse des prix. Homme de principe qui a vécu au service des autres, défenseur des droits des plus vulnérables, les dirigeants du monde entier rendent hommage à Jimmy Carter ce matin. L'ancien président américain et prix Nobel de la paix est mort hier soir, il avait 100 ans. De son mandat, on retient évidemment les accords de Camp David ou encore l'échec dans la libération des otages américains en Iran. Mais ce que l'on sait moins, Paul Lorgerie, c'est qu'il a été le premier président américain à se rendre en Afrique subsaharienne.
Jimmy Carter aimait dire que, lors de son mandat, il avait fourni plus d'efforts à pacifier l'Afrique australe que le Moyen-Orient. C'est en tout cas ce que rapporte la professeure d'histoire Nancy Mitchell, autrice d'un ouvrage intitulé « Jimmy Carter et l'Afrique, race et guerre froide ». Fait d'armes souvent omis, son implication dans le dossier rhodésien, en pleine guerre froide, refusant de soutenir un gouvernement raciste mais ne souhaitant pas que le bloc de l'Est s'empare du sud de l'Afrique, ses efforts ont mené aux pourparlers de Lancaster House, qui ont ensuite débouché sur les premières élections libres d'un nouvel État, le Zimbabwe. Lui qui avait été témoin de la ségrégation dans le sud des États-Unis d'où il est natif, pensait que les luttes du continent africain et de son pays étaient liées. Il fut d'ailleurs le premier président américain à fouler le sol subsaharien en 1978 au Libéria, pays colonisé en 1822 par l'American Colonization Society. Il y retournera des années plus tard dans le cadre de sa fondation, le Carter Center, aujourd'hui actif dans la surveillance des élections et les domaines des droits de l'homme et de la santé à travers le monde.
Paul Lorgerie, et notez que Joe Biden a réagi dans la nuit. L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire, a déclaré le président américain. Joe Biden, qui fut l'un des premiers élus à soutenir Jimmy Carter à sa course à la présidence en 1976. Joe Biden qui a aussi décrété un jour de deuil national. Ce sera le 9 janvier aux États-Unis. Et notez que vous pouvez retrouver la biographie complète de Jimmy Carter sur notre site rfi.fr. Voilà, 9h30 ici à 9h40 même, ici à Paris. Tout de suite, la suite d'Appel sur l'actualité, c'est avec Charlotte Hydrac.
Et bonne journée à vous, Arthur Ponchelet, 8h40 à Conakry.
Appelez-nous